Bordeaux Colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Un moment de littérature émancipatrice. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour cette sixième émission de la saison, nous retrouverons les rubriques suivantes. Un livre, un auteur. La chronique cinéma de Paul Yabastre, qui nous fera connaître le cinéaste Emmanuel Parot. Parole de libraire avec Mathilde Stampf dans la librairie Lisons sous la pluie à la traîne. Et la rubrique art de Sarah Vélu. Sarah, peux-tu nous dévoiler le sujet de ta chronique d'aujourd'hui ?
Je vais vous parler de la photographe Corinne Rosotte.
Merci Sarah. Et c'est Gérard.
Bonjour.
Bonjour Gérard, qui assure comme à chaque fois l'habillage musical de la rubrique, un livre, un auteur, et la réalisation de l'émission sur la Clé des Ondes, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau. Un livre, un auteur. De quel roman et de quelle autrice sera-t-il question aujourd'hui ?
Eh bien, nous vous proposons un récit de Ariane Bois, L'île aux enfants, paru aux éditions Belfond en 2019 et disponible également en format de poche dans la collection Charleston. Le roman rencontre de l'affaire dite des enfants de la Creuse.
Résumons, le 3 novembre 1963, Pauline et sa sœur Clémence, petite fille réunionnaise, sont enlevées et séparées le 12 à Paris. Pauline, devenue Isabelle Gervais, apprend son adoption, mais se mure dans le silence, voire le déni. En 1998, sa fille, Caroline, jeune journaliste, enquête afin de reconstituer l'histoire de sa mère et découvre peu à peu les détails d'un mensonge d'État.
Alors, ce court roman sur un mode mélodramatique vaut surtout et principalement pour le sujet à la fois terrible et terrifiant qu'il traite. Essentiellement rédigé sous forme de dialogue, il relate, à travers une intrigue simple mais significative et des personnages un peu stéréotypés mais assurément réalistes, un épisode particulièrement honteux du néocolonialisme français. Aujourd'hui reconnu comme un scandale d'État, organisé par le pouvoir gaulliste personnalisé par le député Michel Debré, le sujet du roman est donc celui de la déportation par enlèvement, abus de pouvoir, fausses promesses ou tractations financières de jeunes enfants réunionnais dans les années 1960 et 1970 en France métropolitaine.
Maloya, ou même la féwa mouen. Oui, Maloya, ou même pougetta mouen.
Enlevé.
M'a dit merci, bonne gramoun, la baya. M'a dit merci, moumou. Pour moi, danse non.
Soudain, sur la route bordée d'hibiscus rouges, Pauline perçoit un bruit de moteur caractéristique qui se rapproche. Elle crie à sa sœur de se cacher. Mais devant elle, Clémence poursuit sa route, chantonne sans l'entendre. Dissimulée derrière un arbre, pétrifiée, Pauline se met alors à trembler. Cette voiture, c'est la deux chevaux camionnette rouge, dite l'autoroute, celle dont tout le monde dans l'île sait qu'il ne faut pas s'approcher, comme si elle était hantée. Clémence ! La camionnette ralentit à hauteur de la petite. Une portière s'ouvre, un bras musclé l'arrache à la terre en faisant valser son seau dans une gerbe d'eau. Un homme sort de l'habitacle et jette sa proie à l'arrière du véhicule. Effrayée mais prête à tout pour sauver sa sœur, Pauline quitte son abri. Une femme, une oreille, en jugée par ses habits impeccables, l'interpelle. « Bonjour, toi, comment il est ?» Tiens, l'inconnu, c'est le créole. Mais les sonorités paraissent différentes. Les lettres roulent dans la gorge de façon bizarre. Elle fait un pas, puis deux. Et le garde-chasse, c'est lui, elle le reconnaît. La saisit aux épaules, la pousse à l'intérieur, en refermant presque la portière sur elle. Piégée comme une libellule dans un bocal. En pleurs, Clémence s'accroche à sa sœur, effrayée par la brutalité du type et les rugissements poussifs de la camionnette. C'est leur premier voyage en voiture. Derrière la vitre latérale, Pauline voit des cases défiler, mais aussi des maisons blanches ou pastels, aussi élégantes que leur varangue. Elle crierait si sa gorge n'était pas si sèche. À un moment, l'automobile ralentit, stop, sa portière arrière s'ouvre, et l'homme enfourne à l'intérieur un autre enfant tenant un cerf-volant en feuilles de coco. Tétanisé, le petit malbar se blottit contre elle. Bientôt, une odeur de pipi émane de lui. Écœuré par ce remugle, chahuté par les virages de la route, Pauline sent la nausée l'envahir. À côté d'elle, le petit corps de Clémence vibre et son haleine tiède lui souffle au visage. Où les emmène-t-on ? Jamais, paraît-il, on ne renvoie les enfants capturés par la voiture rouge.
Alléluia, maman, m'a dit merci, bonnes ancêtres-là. La roue va moins sommet, baya, la donne à moins l'amour ôté. La roue, mon sommet, pour moi, wa plus loin. Pour tirer au mort, pour moi, guette un tégo, baya.
Des proies.
Guette l'amour, l'amour la donne corps.
Je lui raconte l'arrivée à Guéret, la famille d'accueil, l'adoption, ce que j'ai pu réunir comme information. Il m'écoute, puis m'explique. À partir de 1963, les services sociaux ont écumé les campagnes à la recherche de gosses pauvres. Certains étaient des enfants jetés, abandonnés ou des orphelins. D'autres vivaient avec une grand-mère, une tante, une voisine. C'était courant par ici. La démographie explosait, le nombre de filles mères aussi. Des assistantes sociales repéraient les petits, prenaient prétexte d'un manquement à l'éducation, souvent une affaire d'hygiène ou d'encadrement, facile par chez nous, et emmenaient les gosses, au besoin, en falsifiant les papiers. Mais pourquoi ? Il y a eu de ma question et s'emporte. J'ai rassemblé des témoignages, trouvé des preuves, rencontré des familles. Si tu es disponible, je connais quelqu'un qui va t'intéresser. Il y a pire, tu vas voir. Certains gosses avaient encore leurs parents, miséreux, malades, imparfaits, parfois alcooliques, mais présents. Il a fallu les disqualifier, les persuader aussi de lâcher leur progéniture. Comment ? Eh bien, les assistantes sociales ont menti, affirmé que les petits rentreraient au pays pour les vacances, entreprendraient de bonnes études, seraient choyés en métropole. Un piège, pur et simple.
Maguette fait clair, maguette les hôtés. Quand y arrive Kaba, ma crase à lui-même. Ma guette la linoté, pour que m'y prie, baya, pour que m'y prie encore, pour en cette là. Si j'en dis, maman, m'y vive sans remords, agade l'amour, y danse dans le corps. Oui, m'a dit merci, maman, m'a dit merci.
Papa Debré.
Bonnes ancêtres-là. Miguette la lumière.
Comment t'es-tu intéressé à cette histoire ? Par mon père, je viens d'une famille de marrons, très pauvres. Tu sais ce que c'est ? Les noirs fuyant dans les montagnes pour se cacher, c'est ça ? Oui. Mes ancêtres ont été déportés d'Afrique, sur l'île Bourbon, afin de ramasser la canne et le café. Le dos cassé, les coups de machette, la foire au noir, ils ont tout enduré. Grâce au sacrifice de sa famille, mon père a réussi à s'élever, à devenir gendarme. Il en était très fier, sauf quand il s'agissait de ses gosses. Il les a vus partir ? Pire que ça. Il a dû aller les chercher, puis les livrer. Certains se débattaient, couraient se cacher dans la forêt. Il fallait les rattraper. obéir à l'État français cautionnait plus ou moins cette infamie. Il ne s'en est jamais remis. Sur la route du retour, j'assemble mentalement les pièces du puzzle. Si j'ai beaucoup appris en une matinée, l'essentiel m'échappe. Pourquoi transplanter des petits dont certains n'avaient pas 6 mois? Tu n'as jamais entendu parler de Michel Debré, papa Debré, comme on l'appelle ici? Mes cours d'histoire me reviennent. Debré, premier ministre du général de Gaulle et député de la Réunion, si je me souviens bien. En 1963, poursuit Sully, la situation démographique est explosive. 7 enfants en moyenne par famille. 60% de la population de l'île a moins de 20 ans. Un fort chômage. Les soubresauts de la décolonisation.
Malouyaouti, Madon Saou, Don Kabala. Di maluya mumu makrazali pugramunla.
Alors le roman est construit en 2 parties. La première, qui se déroule de 1963 à 1972, qui est rapportée par un narrateur extérieur, raconte la jeunesse de Pauline Rivière, emmenée de force de l'île de la Réunion vers la Creuse avec sa jeune sœur Clémence. Elle permet au lecteur d'imaginer le destin singulier d'une enfant arrachée à sa famille et à sa terre. La seconde, rédigée cette fois la première personne, raconte la quête menée par Caroline, la fille de Pauline, de l'histoire de sa mère, enfermée dans le déni et la honte, et elle se déroule de 1998 à 2002. Et c'est cette seconde partie qui permet au lecteur de se rendre compte du mécanisme de déportation mis en place par le gouvernement français.
Oui, cette déportation d'enfants réunionnais était justifiée, selon les autorités françaises, par la nécessité de repeupler des départements métropolitains et d'importer de la main-d'œuvre dans le domaine agricole face à l'exode rural. On peut aussi penser que la situation sociale, comme la montée des revendications autonomistes dans l'île, ont contribué également à la mise en place de ce système. Cette affaire est connue sous le nom des enfants de la Creuse, car le département creusois a accueilli au moins 215 des quelques 2150 enfants réunionnais littéralement déportés. Les autres ayant été transférés dans d'autres départements sous-peuplés, comme le Tarn, le Gers, la Lozère ou les Pyrénées-Orientales.
Oui, et il faut aussi bien se rendre compte que ce programme de repeuplement est totalement officiel et qu'il engage l'État tout entier. Ainsi, le déplacement d'enfants est organisé par le BUNIDOM, c'est-à-dire le Bureau pour le développement des migrations dans les territoires d'outre-mer, avec l'aide des DAS sous l'autorité de Michel Debré, considéré par ailleurs comme le père de la toujours actuelle Constitution, qui était alors député de la Réunion. Les enfants déplacés sont déclarés pupilles de l'État. Dès lors, leurs parents n'ont plus aucun droit sur eux.
Soku o mamba melingeli elango mamweye aungola wa masaye soku o mange alingeli e masoye mamwe lungo mamwe la saye soku o mamba
esclavage
la ila ila.
Oui, la DAS donnait un petit pécule tous les mois, mais aucun gosse n'en a vu la couleur. Les fermiers la raflaient, ils disposaient d'une main-d'œuvre gratuite et corvéable à merci. On recevait bien des vêtements, reprend Dijoux, le fameux trousseau de vêture, comme on disait, mais qui allait directement au fils du fermier. À moi, les vêtements usagés, les guenilles. J'ai envie de le serrer dans mes bras, mais je n'ose pas. Et je pose ma main sur la sienne, toute déformée. Nous scrutons le soleil qui joue à cache-cache entre les feuilles. On a été bernés, en fait. Les enfants, les parents et même les paysans, qui n'étaient pas formés forcément cupides et qui sont tombés sur des négrillons fous de chagrin. La Creuse nous a tous creusés. Je m'accroche à son regard. Dans cette histoire, les enfants n'avaient qu'un droit, celui de se taire. Les petits ne gagnent jamais. Et là, quelque chose d'inattendu, d'incongru, survient. Cette force de la nature titube, se liquéfie. De grosses larmes dévalent ses joues ravinées. Excusez-moi, j'ai mis 30 ans à revenir sur mon île, ma terre. La plupart n'ont jamais revu leur pays, faute de moyens ou d'envie. Ils ont construit leur vie en métropole, comme ma mère. Oui, moi j'ai survécu, enchaîné les petits boulots. Le sport, les compétitions de judo m'ont sans doute sauvé. Mais je suis resté un gamin dans ma tête. Un enfant qui aurait préféré user ses culottes au soleil d'ici, plutôt qu'en Sibérie. Sully se lève d'un bond et part arpenter la route, mâchoire serrée, un bloc de rage. Resté seul avec Jules, j'attends qu'il se calme. « Parle de nous en métropole, m'enjoint-il. Dis-leur qu'on nous a volé notre enfance, à nous autres. » Je promets, gorge serrée, « Pourquoi a-t-on si peu entendu parler de ce qu'il faut bien appeler un esclavage moderne ?»
Soku o mangali beni, wo o mangaliwa, seli e longale. Soku o mamba.
Origine 1.
Eli eli e masoye, mamu elinge.
Après l'avoir salué, je lui raconte dans le désordre ce que je sais. Ma mère a fait partie d'un groupe d'enfants envoyés dans la Creuse. Orpheline, elle y a été adoptée et je recherche pardon de vous interrompre, mais seule la personne concernée a le droit de consulter son dossier. Bien sûr, j'ai apporté une procuration, elle me prend le papier des mains puis m'explique. Beaucoup d'enfants ont été dans ce cas entre 1963 et 1982. Il s'agit d'une opération menée par l'ancienne aide sociale à l'enfance, la DAS. Un beau succès, cette relocalisation en métropole. Vous trouverez ici son acte de naissance. Il s'agit de Pauline Rivière, née de Jeanne Potin et de Carélien Rivière, le 29 octobre 1957 au Tampon. Vous souhaitez une photocopie ? À Guéret, le fonctionnaire avait mentionné une enfant prénommée Isabelle. Pourquoi ce prénom-ci et non celui d'origine figurait-il sur ses papiers en métropole ? En vérité, elle s'appelait Pauline, Pauline Rivière. Je prononce ce nom à voix basse comme pour m'en persuader. Isabelle Gervais, mariée à Marc Estivet, et dans une autre vie, Pauline Rivière, un beau patronyme qui lui ressemble par ses sonorités douces, son évocation de la nature, de l'eau qui nettoie, traverse et rassemble. Je dispose d'un autre document, mais je ne sais pas à quoi il correspond. Elle pointe un doigt manucuré sur une feuille jaunie. Ah voilà, c'est une autorisation de sortie du territoire signée par un commissaire de police. Sous le nom de ma mère, un matricule, le numéro 874. 873 enfants seraient-ils partis avant elle ? Ni date, ni numéro d'acte, rien qu'une phrase, en bas de la page. La présente autorisation, valable jusqu'en février 1965, l'est pour un seul voyage. Un seul voyage.
Origine 2. Extrait de registre des délibérations du Conseil de famille des pupilles de l'État. Consentement à l'adoption. Les époux Gervais, demeurant 38, boulevard Saint-Pardoux à Guéret, ont demandé l'adoption plénière de la jeune Rivière Pauline, née le 29 octobre 1957, au Tampon à La Réunion, dont ils ont la garde depuis le 20 avril 1964. Isabelle parcourt en diagonale le texte, bute sur les mots, revient sur la première ligne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui est cette Pauline Rivière ? Le conseil de famille, considérant que les époux Gervais remplissent les conditions requises par la loi et offrent toutes les garanties matérielles et souhaitables, considère que l'adoption qu'il projette est tout à fait conforme à l'intérêt de la jeune Pauline Rivière. Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité de consentir à l'adoption plénière de la pupille de l'État, Rivière Pauline, par les époux Gervais. Isabelle se met à trembler, la vue brouillée. Elle déchiffre à peine les tampons et la date 1965. Les caractères se troublent, dansent entre les lignes, tandis que leur sang s'immisce en elle comme un poison adopté. Ainsi, il s'agissait de ça. Elle avait toujours éprouvé le sentiment diffus d'un secret. Elle ressentait les silences, les gênes chez elle, mais aussi dans la rue. Il y avait eu petite cet incident à l'école, les moqueries de certains élèves. Et bien sûr, cette couleur de peau, ni noire, ni blanche, si différente du reste de la famille. Elle s'était si souvent sentie exclue, sans pouvoir nommer cet isolement. Elle n'avait jamais pensé à l'adoption. Pouvait-on se montrer bête à ce point, si ignorante ? Pauline Rivière, voilà donc comment elle s'appelait. Ce prénom allume de lointaines réminiscences et un vague souvenir de ces trois syllabes, du « line » qui passait comme une caresse sur ses lèvres. Mais ce nom Rivière la renvoie à un trou noir, plus noir qu'elle. Ce nom lui est étranger, tout a disparu. Son esprit cherche une piste, mais s'enfonce dans une forêt obscure. La jeune fille sort en titubant, des mouches devant les yeux. Elle se plaque au mur pour ne pas s'évanouir. Nous sommes le jeudi 27 juin 1974 et j'ai été adoptée. Il m'a fallu 17 ans pour le savoir. Voilà ce qui tourne dans sa tête égarée.
Alors, une minorité de ses enfants étaient orphelins. La majorité, elle a subi les conséquences des procès-verbaux d'abandon signés par des parents illettrés en échange de fausses promesses et qu'ils ne reverront plus jamais leurs enfants. Après leur arrivée à Orly, les nourrissons sont cédés à des familles adoptives. Les plus grands, souvent noirs ou métis, sont envoyés dans les centres d'accueil, puis dispersés dans des familles payées par la DAS de la Réunion. Déracinés, déculturés, les enfants, le plus souvent en échec, se retrouvent garçons de ferme, femmes de ménage. Et l'historien Yvan Jablonka parle d'ailleurs de cas de mise en esclavage. Ou bien ils sont bénéficiaires d'aides sociales comme le RMI puis le RSA. Enfin, un nombre non négligeable d'entre eux a été interné dans des institutions psychiatriques.
Alléluia, ou même la fewa mwen, oui maloya, ou même pougeta mwen.
Une aubaine.
M'a dit merci bon gramoun la baya, m'a dit merci mou, pour moi danse dans cabaret.
Dis chez toi, c'est comment ? On était des enfants de la misère, se souvient Gaëtan. Ma mère en avait 5, des petits, de 3 pères différents. Elle vivait avec un jardinier qui m'avait prise en grippe. Dès qu'il avait fini de lever son verre, mon petit père me cherchait des noises. Un jour, il m'a même jeté du piment dans les yeux, j'ai failli devenir aveugle. J'ai commencé à passer mon temps avec les pêcheurs ou à traîner, dans la rue, avec d'autres gosses chassés de chez eux. Et puis un jour, deux femmes étaient venues à la case, le front plissé, l'air dégoûté, devant les détritus, les roues de vélo tordues, les sacs en plastique éparpillés dans la cour, l'absence d'eau et d'électricité, le sol en terre battue. Elles m'ont dit que si je partais en France, je pourrais devenir aviateur, sourit Gaëtan. On me donnerait le blouson et des décorations. Tu parles comme j'étais d'accord. Ravi de l'open, le beau-père avait proposé d'autres enfants. Chez eux, disait-il, il y en avait autant que de cailloux. Mais les femmes avaient jeté leur dévolu sur Gaëtan. Elles m'ont aussi raconté que je redeviendrai vite, avec mon avion.
Maguette fait clair, maguette les ôter, quand y arrive cabas, m'accrase à lui-même. Maguette la linoter, pour que m'y prie baya, pour que m'y prie encore. tous ancêtres là. Si je dis mon monde, mi vive sans remords, agade l'amour, il danse dans le corps. Oui, m'a dit merci, mon monde, m'a dit merci. Bonnes ancêtres là.
Remplacement.
Miguette la lumière, mon monde, ah, miguette la joie. Donne fait noir, miwa mon lumière.
Dans la nuit, Pauline ne gardera que des flashs. Madame Granger tremblant du menton, l'air mauvais, effrayé, puis indifférent de son mari, le docteur installant doucement Gaëtan inconscient à l'arrière de la voiture. Le garçon la quitte encore pour l'hôpital de Guéret. La visite de l'assistante sociale s'est faite ensuite sans politesse ni gâteau. L'atmosphère, les visages étaient graves. « Comment va-t-il, le gosse ?»« Il s'en sortira, » répond la femme encore sous le choc. « Mais on a frôlé la catastrophe. Je me demande ce qu'il lui a pris. » Réfugié sous la table avec le chien, sa place coutumière, Pauline n'en perd pas une miette. Gaëtan vivra, il va revenir, elle se retient de hurler de joie. « C'est mon troisième, vous vous rendez compte ?» s'exclame Madame Granger. « Je ne sais pas ce qui se passe avec ces oiseaux des îles. Ils devraient pourtant être heureux ici, non ?»« Et quand j'en aurai d'autres, interrompt Granger, c'est qu'il y a affaire ici. » « Pour ça, ne vous inquiétez pas, rassure la dame, il en arrive presque chaque semaine de la réunion. Je vous proposerai deux pensionnaires très vite. » « Et la petite ?» demande l'infirmière. « Elle part avec moi, on lui a trouvé une famille en ville, c'est mieux comme ça. » Madame Granger soupire. « Je vais la chercher alors avec son pochon. » La valise de Pauline, cette gueule sombre dans laquelle tient sa vie miniature, a été vite bouclée. Interdite, elle a vu la paysanne rassembler ses cahiers, son cartable, ses dessins. « Tu vas voir, tu seras bien chez ces gens-là. Tu n'es pas une gosse de la campagne, toi, ça se sent tout de suite. » Soudain, elle ajoute, contrite, « Je suis désolé, tu sais. » Et Gaëtan, oh, « Il va se refaire une santé, ne t'inquiète pas, il est costaud. À cet âge, on récupère vite et il ira sans doute à l'école. »
Et maloya ôté, la râle à moins d'un cabala. Maloya momo, ma danse à lit, tant pis que miwa. M'a dit merci, bonne gramoune là.
Ainsi, le bilan humain individuel et collectif est terrible. De 62 à 84, ce sont au moins 2150 enfants réunionnais qui ont été transférés en métropole selon ce procédé.
Oui, c'est donc un bilan humain, individuel et collectif terrible. Mais ce drame est aussi terrible car il se déroule quasi au même moment où les anciennes colonies gagnent leur indépendance. Il commence au début des années 60, perdure jusqu'en 1982 et n'est dénoncé qu'en 2014, c'est-à-dire il y a moins de 10 ans, ce qui en dit long sur la nature colonialiste des pouvoirs comme des mentalités. Et c'est donc le 18 février 2014, pour que il faut attendre le 18 février 2014 pour que l'Assemblée nationale, par 125 voix contre 14, vote une résolution portée par Erika Barex, députée socialiste de La Réunion, qui reconnaît alors la responsabilité morale de l'État français.
Et ce n'est qu'en février 2016, uniquement il y a 8 ans, qu'une commission d'experts est mise en place par le ministère des Outre-mer pour répondre aux besoins d'un travail de mémoire sur l'exil forcé de ces enfants, dont le traumatisme perdure. Le rapport reconnaît la responsabilité morale de l'État français et la défaillance de l'aide sociale à l'enfance. Mais la question de la responsabilité juridique et de l'indemnisation du préjudice n'est toujours pas réglée.
Au commencement, nous sommes des enfants imaginant des fantômes qui nous effraient. Peu à peu, au cours de nos longues vies, nous devenons nous-mêmes ces fantômes, hantant les paysages perdus de notre enfance. C'est par cet exergue de Joyce Oates que s'ouvre le roman de Ariane Bois.
L'autrice Ariane Bois, également journaliste, grand reporter, traite dans ce roman, comme dans d'autres, de drames historiques et d'histoires de mémoire. On peut citer celui des enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale, qui fait l'objet de la trilogie Le Monde d'Anna, sans oublier, et Le Gardien de nos frères. Née en 1961, elle est romancière depuis 2009. Et depuis son premier roman, Et le jour sera comme la nuit, elle a publié 8 autres romans.
Oui, alors Gérard, est-ce que tu peux nous dire quelques mots à propos de cet habillage musical que tu as réalisé ?
Oui, vous avez entendu une voix, une magnifique voix, c'est celle de Christine Salem. C'est une artiste, chanteuse, compositrice réunionnaise, une personnalité incontournable de l'île de la Réunion. Et comme Daniel Warraud, la grande figure de la musique réunionnaise traditionnelle, mais moderne et créatrice, dont elle s'inspire, elle chante en créole réunionnais de la rue. Elle chante le maloya, cette musique et ces danses, nées pour exprimer la douleur des esclaves des plantations de la canne, pour se moquer des maîtres, pour véhiculer des revendications indépendantistes plus tard. Et c'est à ce titre que le style de musique, le maloya, est interdit durant la colonisation, mais également jusqu'en 1981. Alors, en militante investie dans l'éducation populaire, le féminisme, elle aime, Christine Salem, elle aime les fusions, elle chante le blues, se fait accompagner de musiciens et musiciennes d'autres régions du monde, d'autres styles, avec d'autres instruments. Christine Salem possède une voix grave, une voix de velours, envoûtante, extrêmement émouvante. On a choisi 2 morceaux où cette voix fait merveille. Le premier, c'est « Merci ». Titre éponyme de l'album sorti en 2021. Et le deuxième morceau, c'est Bandier, tiré de l'album Largue pâle au corps, sorti en 2015.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotte, nous, elle est maman. Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Elle joue pas avec moi. J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime?
Vous avez reconnu le magnifique Mélocotone de Colette Magny, qui a servi de berceuse à nos enfants d'ailleurs. Deux gosses dans un jardin, où elle est maman, j'en sais rien, donne-moi la main. C'est un chef-d'œuvre de tendresse. Elle a enregistré ce titre en 1963 et il a lancé sa carrière après une apparition très remarquée au Petit Conservatoire de Mireille, qui a révélé tant d'artistes. Colette Magny a commencé sa carrière très tard, à 36 ans, gênée par son obésité, après avoir été secrétaire à l'OCDE. Elle a débuté en première partie à l'Olympia de Sylvie Vartan. Son répertoire est inspiré par le blues et le jazz. Elle en a la voix. La guerre d'Algérie a déclenché chez elle une prise de conscience politique et désormais, elle chantera des textes engagés, Aragon, Rilke, Max Jacob, et des textes de révolte et d'histoire des luttes, lutte ouvrière en particulier. Elle a été jugée trop provocante et bannie des ondes longtemps. Elle s'était installée dans l'Aveyron, où elle a créé une association culturelle Acte 2, ainsi qu'un festival. Rendons-lui sa voix, car elle a été injustement oubliée. La chronique cinéma.
Je vais vous parler du cinéma réunionnais contemporain à travers un film de fiction qui s'appelle Maudit, réalisé par Emmanuel Parot et sorti en 2021. Maudit raconte l'histoire d'Alice et de Marcelin, deux amis réunionnais qui s'associent pour ouvrir un commerce. Une nuit, Marcelin raconte à Alice sa peine de voir sa copine le quitter pour retourner en France. Alice reproche à Marcelin sa soumission. Les deux amis se disputent et Marcelin part marcher seul dans la forêt. À son réveil, Alice part à sa recherche. Il commence par explorer le paysage qui entoure la maison, c'est-à-dire qu'il va chercher Marcelin dans les hautes montagnes de la Réunion. Une fois qu'il a fouillé le territoire, il se plonge dans l'histoire. Il explore l'île, hantée par les fantômes du colonialisme et de l'esclavage.
Marcelin ! Marcelin !
Maudit est une œuvre à la lisière du policier, de l'horreur et du fantastique. Or, ces genres ne sont pas convoqués au hasard. Parot explique que dans la culture réunionnaise, les morts et les vivants coexistent. Ici, la fiction joue un rôle important. Plutôt que de souligner une distance, le genre fantastique permet à Parot de se rapprocher du réel réunionnais. Emmanuel Parot est un réalisateur qui vient de la métropole et qui a tourné la majorité de ses films à La Réunion. Lorsqu'il présente sa démarche, il explique chercher à donner par sa mise en scène une place juste au spectateur. Il s'agit de conduire celui-ci à comprendre la réalité des Réunionnais, tout en intégrant l'impossibilité de se mettre à leur place lorsqu'on ne vit pas cette réalité. Il faut alors en quelque sorte brusquer le spectateur et l'impliquer de manière sensible dans le territoire. Cela passe évidemment par le tournage du film en créole réunionnais, mais aussi et surtout par la présence des fantômes. Ces fantômes apparaissent en effet de manière relativement naturelle dans le film, très tôt dans le récit. Ils peuvent être présents sans intervenir, sans même être vus par Alice, comme ils peuvent agir sur le déroulement de l'histoire. Si Maudit prend pour point de départ de son récit la disparition de Marcelin, le personnage d'Alice ne mène pas l'enquête. Il n'est pas acteur de la recherche, il est plutôt condamné à se rendre dans un lieu ou dans un autre, contraint par un autre personnage ou par la fuite. Le corps d'Alice est fragmenté par le découpage, tandis qu'il est enfermé dans le cadre par les plans serrés et le format 4 tiers, comme il est enfermé par le paysage et par l'omniprésence de la montagne. Il y a peu de ciel dans le film, hormis lorsqu'il est filmé de face, si l'on peut dire, avec la caméra orientée vers lui. Dans Maudit, l'enquête est en quelque sorte une fausse piste. Marcelin apparaît et disparaît d'une séquence à l'autre sans qu'il soit possible de dire s'il s'agit de lui, d'un fantôme ou d'une hallucination. Une originalité du film se trouve dans sa manière d'éviter d'enfermer son récit dans l'enquête par son caractère elliptique et ses séquences oniriques, ou plutôt cauchemardesques, aux frontières poreuses, c'est-à-dire qu'il est impossible d'en délimiter le début et la fin. En témoigne une séquence centrale dans un bar, où il est impossible de discerner le rêve de la réalité, d'autant plus que l'alcool qui coule à flot ajoute à la perte de repères. Le spectateur bascule progressivement dans le cauchemar, au fur et à mesure qu'Alix s'enfonce dans les racines de la violence. L'île est présentée par ces deux personnages comme un paradis sur Terre. Alix et Marcelin ont travaillé pour appartenir à un idéal, symbolisé par le drapeau français qui ouvre le film. Or, cet idéal les exclut, car l'argent et le pouvoir appartiennent aux Blancs. Ce qu'Alix décrit comme les opportunistes dont le rapport à la Réunion se résume à « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu et je suis reparti à la métropole ». Il n'est même pas anodin que les deux amis se disputent sur leur rapport aux Blancs, comme si le poids du passé esclavagiste continuait de les diviser. Tous les phénomènes du présent renvoient aux violences du passé. Lorsque Marcelin dit qu'il est maître dominé et maltraité par sa copine blanche, Alix regarde la photo d'un homme noir dont le dos est marqué par les coups de fouet. Les bâtiments s'inscrivent dans l'architecture coloniale, tandis qu'à l'intérieur s'y trouvent des gravures représentant des scènes de l'esclavage. Dans une séquence centrale, le film pose la question du point de vue de chacun sur l'héritage colonial. Alix pose un objet d'exposition au milieu d'une cage de verre symbolisant les morts réunionnais de l'esclavage. Des visiteurs blancs l'observent, lui tournent autour, peinent à engager un dialogue avec lui et refusent de se mettre à sa place. Les fantômes du colonialisme s'incarnent aussi dans les mots. Alice est sans cesse interpellée par des termes comme « esclave » ou « sauvage », comme si les identités n'avaient pas été changées. Un motif revient tout au long du film, la cascade au milieu de la montagne, au milieu du paysage, qui est aussi le cours d'eau que l'on remonte comme on remonte le temps. Car Maudit nous invite à un voyage dans le temps, au cœur de la survivance des fantômes de l'esclavage sur l'île de la Réunion. Maudit est un film formellement libre et audacieux à partir d'une esthétique épurée qui s'inscrit dans une économie resserrée. Cela lui donne une certaine indépendance et permet à son réalisateur, Emmanuel Parot, d'affirmer sans concession son identité cinématographique et sa radicalité politique.
Parole de libraire. Bonjour, nous sommes à La Traîne, à quelques kilomètres de Bordeaux, devant la librairie Lisons sous la pluie, et nous allons rencontrer Mathilde Stumpf. Bonjour Mathilde Stumpf, merci de nous accueillir dans votre librairie. Pouvez-vous vous présenter et nous raconter vos premiers pas de libraire?
Bonjour, alors donc moi je suis Mathilde, je suis la gérante de la librairie Lisons sous la pluie à La Traîne. Donc c'est une librairie qui a ouvert il y a bientôt 4 ans, donc sur la petite ville de La Traîne qui est une ville périurbaine de Bordeaux. Alors donc mes premiers pas de libraire, donc moi je suis pas de libraire du tout de base à l'origine, c'est une reconversion professionnelle que j'ai effectuée à mes 40 ans. Voilà, envie de faire quelque chose qui avait un peu plus de sens, donc j'ai quitté l'entreprise où j'étais et j'ai décidé de créer cette librairie qui n'existait pas du tout avant. Je me suis installée à La Traîne parce que c'est de là que je viens, enfin en tout cas d'une petite ville à côté. Voilà. Donc ça me tenait à cœur de m'installer dans ma région, dans mon coin. Et puis je cherchais aussi voilà, un petit centre-ville, un petit village. Donc je souhaitais faire de la librairie un lieu accueillant, un lieu de rencontre. Donc c'est ce que j'ai essayé de créer.
Excusez-moi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre librairie que la vôtre sur La Traîne?
Ah, sur La Traîne, non. Et sur le secteur, on n'est pas nombreuses. Le maillage territorial des librairies sur le secteur de la rive droite, on n'est pas très nombreuses. Ce qui est très bien, ce qui permet voilà, de brasser vraiment les populations. Quoi.
Ça veut dire qu'il y a 4 ans avant que vous installiez cette librairie, il n'y avait pas de librairie sur La Traîne?
Pas du tout. Non, il n'y avait pas de librairie sur La Traîne.
C'était un vrai manque.
C'était un vrai manque, effectivement. Un vrai manque, un vrai besoin. Et parce que les gens, en fait, allaient beaucoup sur Bordeaux, en fait, ou alors partaient plus vers Cadillac, ou voilà. Mais en tout cas, dans le coin, il n'y en avait pas du tout. Donc, ça a vraiment été une création.
Votre librairie est généraliste, mais bon, je pense que c'est toujours un peu compliqué. Vous avez peut-être des domaines où vous avez plus d'envie, plus d'expertise.
Alors oui, effectivement. Donc déjà, l'objectif, c'était effectivement de créer une librairie généraliste parce qu'effectivement, dans le coin, il n'y en avait pas et je ne voulais pas choisir. Je voulais que tout le monde puisse y trouver voilà, toutes sortes de lectures. Mais très rapidement, effectivement, il y a un rayon qui a pris un peu plus d'ampleur, on va dire, que les autres. C'est la jeunesse. La jeunesse et les ados, mais vraiment la jeunesse parce que, ben, en fait, il y a beaucoup de familles. On est une communauté de communes assez jeune. Donc il y a beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. Et puis nous, avec ma collègue, on aime beaucoup lire les albums jeunesse, donc on a pris vraiment plaisir à mettre les doigts dedans, à les lire, on aime les raconter aux enfants, les histoires drôles, et puis on aime aussi pouvoir répondre aux questions des parents et des enfants, ce qui fait que ce rayon a effectivement pris un peu plus de place. Le deuxième rayon qui nous plaît et qu'on met vraiment en avant de manière voilà, un peu engagée, c'est le rayon féminisme et études de genre, donc qui est surtout porté par ma collègue, qui voilà, il y avait une demande, mais c'est surtout qu'il y avait, nous, on avait envie de vraiment mettre en avant ce rayon-là.
D'accord. Et avez-vous des techniques particulières pour valoriser des livres dont vous voulez le succès?
Alors oui, effectivement, on a plein de petites choses pour mettre en avant les livres qu'on a aimés. Donc nous, déjà, on a créé des petits stickers coup de cœur de la librairie, ce qui nous permet de les mettre quand on n'a pas le temps d'écrire des petits textes. Ça permet aux clients d'avoir déjà un repère sur les livres qu'on a aimés. On fait des petites notules, effectivement, aussi avec des petits textes, qui permet aux gens qui savent pas forcément ce qu'ils veulent de pouvoir flâner, de choisir des livres sur les recommandations de la librairie. Puis les clients, maintenant, ils connaissent un petit peu ce qu'on on aime lire, donc quand on aime la même chose, ils y vont un peu naturellement aussi. Et puis après, on a une politique d'animation sur les réseaux sociaux et de mise en avant qui est assez importante, donc on en parle beaucoup. On met en avant tous les mercredis un coup de cœur, tout genre confondu, donc ça peut être de la BD, du roman, de l'essai, voilà, toutes les semaines on en fait un. Et également tous les vendredis, on met en avant toutes les nouveautés de la semaine, avec ce qu'on a envie de porter, ce qu'on a lu déjà, ou alors ce qu'on a envie de lire pour voilà, proposer aux gens vraiment plein de choses.
Ça vous confronte pas quand même à un petit dilemme, si je puis dire, entre ce que vous vendez, parce qu'il faut vendre, hein, c'est un commerce, et puis ce que vous souhaiterez mettre plus en avant?
Alors oui, effectivement, c'est un dilemme, c'est également un enjeu, parce qu'effectivement, nous, on n'aime pas tous les genres, mais en même temps, il faut pouvoir les vendre pour que la librairie fonctionne. Alors moi, j'ai pas trop de difficultés avec ça, déjà parce que bon, on est une petite librairie, donc de fait, on sait qu'on peut pas tout avoir, hein, donc on n'a aucun problème pour faire des choix. Après, j'ai aussi ouvert une librairie indépendante pour être indépendante, donc voilà, c'était quand même l'objectif de pouvoir choisir ce que j'avais envie de mettre en avant. Depuis 4 ans qu'on est là, on connaît quand même bien maintenant le goût de nos clients. Donc quand on choisit nos nouveautés, on sait ce qu'il faut absolument avoir, on sait ce qui va potentiellement plaire, même si ça nous plaît pas à nous. Donc on arrive vraiment à faire nos choix, et puis quand il y a des livres qu'on veut pas avoir, on les prend pas, mais bien évidemment on fait tout sur commande, ouais. On juge pas, il y a pas de sujet avec ça. Du coup les clients savent qu'ils peuvent tout nous commander, et puis comme je vous dis, la librairie étant petite, les clients ils ont d'ores et déjà, ils savent qu'on peut pas tout avoir, ouais. Donc en fait ils ont vraiment pris l'habitude de commander si on n'a pas, et il y a vraiment pas de difficulté par rapport à ça. Et c'est pas forcément une question de choix, en fait, c'est que parfois on choisit parce que on n'a pas le choix, quoi.
Et pensez-vous avoir un rôle culturel ou social dans la ville?
Alors oui, j'espère aussi. C'est vrai que moi, quand j'ai ouvert la librairie, comme je vous disais, l'objectif c'était vraiment d'ouvrir un lieu accueillant, d'être un lieu de rencontre aussi, un lieu d'échange. Moi, j'avais vraiment envie d'être au cœur de la ville et proche des commerçants. Nous, on a la chance à la Traîne d'être vraiment les commerçants tous ensemble pour créer des synergies, pouvoir voilà échanger sur plein de choses. Donc ça a permis effectivement à beaucoup de gens de se rencontrer. Par exemple, nous, ça va faire un an qu'on a ouvert un club de lecture qui n'existait pas avant. Juste ce club de lecture, il a permis à des lecteurs, les lectrices hein, essentiellement, de se rencontrer. C'est des personnes qui se seraient peut-être pas rencontrées sans ce club, et qui du coup maintenant parlent des livres qu'on a lus, mais également ça déborde, et du coup elles peuvent se voir aussi en dehors, etc. Donc on a vraiment créé du lien social par rapport à ça. Et puis le lien culturel, je dirais qu'il se fait aussi avec les bibliothèques, les médiathèques, le collège, parce qu'on a le collège de la Traîne qui est juste à côté, les écoles aussi, parce qu'il y a beaucoup d'écoles dans le coin, hein. La communauté de communes, elle est vaste, et il y a beaucoup d'écoles, ce qui fait qu'on a des partenariats, on fait des festivals avec la communauté de communes, on fait aussi par exemple, on va avoir un festival italien là dans quelques semaines, qui jusque là voilà n'avait lieu que sur des villes proches de Bordeaux, enfin en tout cas de la communauté urbaine de Bordeaux, et qui là va venir cette année également à la Traîne. Donc ça permet aussi de mettre en avant des auteurs italiens dans leur langue, donc ça vraiment voilà, ça permet de mettre à porter dans des petites villes comme nous, des petites villes de campagne, hein, quand même, on est de villes de campagne, d'apporter la culture au plus près. Voilà, dernièrement, on a eu un gros salon aussi, le salon de Lignan. Donc Lignan, c'est vraiment une toute petite ville qui a très très bien fonctionné, et c'est vrai que les gens étaient très heureux de pouvoir être près de chez eux, d'être chez eux en tout cas, et d'avoir accès à toute cette gamme de livres. Quoi.
Oui, donc ça fait beaucoup de travail et beaucoup, c'est très bien. Et j'ai vu nous avons vu en rentrant qu'il y avait un affichage où visiblement vous allez recevoir bientôt une autrice. Donc vous avez parlé en fait de dispositifs particuliers et toute cette animation, et vous avez aussi vous avez aussi l'envie de recevoir des auteurs.
Oui, tout à fait. On essaye de le faire assez régulièrement. On reçoit des auteurs pour la littérature adulte et pour la littérature ado. Donc là, on va recevoir MIP qui va venir samedi. C'est de la littérature plutôt adolescente, enfin grand adolescent. Donc oui, c'est important pour nous de proposer à nos lecteurs des rencontres et des dédicaces, tout type confondu. On a eu la chance l'année dernière d'avoir Pete Fromm, qui est un grand auteur américain. Donc venir sur la Traîne, c'était quand même vraiment super de faire faire venir des auteurs aussi importants. Les lecteurs étaient vraiment ravis.
Et c'est ici vous le recevez ?
Alors, le Pied de Frome, on l'a reçu au restaurant à côté, parce que là, on n'avait pas la place. Mais autrement, dans les auteurs, on les reçoit parce qu'on a des meubles sur roulettes, donc on peut tout pousser. Voilà. Alors, ce n'est pas immense, mais en tout cas, ça s'est toujours bien passé. Et puis, au contraire, c'est intime et c'est sympa. Quoi.
Super. Et pour terminer, vous pourriez nous conseiller un ou deux titres qui enrichiront une bibliothèque idéale contre les oppressions, quelles qu'elles soient.
Alors oui, nous on a pensé à deux livres avec ma collègue. Moi je vous conseillerais La femme de Parryaka, donc de Witi I. Maera, qui est édité aux éditions Vendésiles. Donc les éditions Vendésiles, c'est une maison d'édition qui est basée en Polynésie française et qui met en avant essentiellement des auteurs du Grand Pacifique sous l'angle d'une littérature plutôt engagée. Donc ce texte-là est un roman, mais il est vraiment à la croisée de la biographie, de la fiction et du récit historique, puisqu'il va raconter à travers l'histoire d'un personnage principal, Erenora, l'expropriation des Maoris par les Anglais dans les années 1890, quand les Anglais sont arrivés en Nouvelle-Zélande. Oui, ça se passe en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et donc, ça raconte sous ce biais très romanesque, mais du coup, très documenté, très précis. Il y a un très gros travail de recherche. Et c'est vraiment, c'est vraiment pour moi un livre magnifique et en plus très engagé pour la culture maori. D'accord. L'auteur est maori d'origine. Voilà. Donc il y a celui-ci et ensuite le second, on avait pensé à Pesticides, un colonialisme chimique, donc de Larissa Mies Bombardi, qui est édité aux éditions Anacaona, pardon. Les éditions Anacaona, c'est l'autrice, enfin l'éditrice en fait traduit elle-même tous les textes qui viennent que du Brésil essentiellement, alors tout genre littéraire. Donc celui-ci est plutôt un essai sur les pesticides, comme vous le voyez. L'autrice, elle est exilée en Europe, elle ne peut plus, elle est menacée de mort dans son propre pays, donc elle ne vit plus au Brésil. Et dans ce texte, elle dénonce en fait l'industrie agroalimentaire et notamment l'utilisation des pesticides au Brésil qui sont envoyés par l'Europe, puisque en Europe, ces pesticides sont interdits parce qu'on connaît leur nocivité, mais on l'envoie, on l'importe au Brésil. Et donc, par cet envoi, déjà, ça raconte aussi tous les problèmes de santé qu'il y a sur les populations brésiliennes, l'expropriation pour utiliser des terres pour créer des champs de soja, etc. Et puis l'effet boomerang, puisque ceux qui cultivent, eh ben, par d'autres biens, ça revient en Europe. Voilà. Donc c'est un bel essai. Alors il est très accessible, il est très court, et vraiment tout le monde peut le lire. En fait, il n'est pas du tout compliqué, on pourrait croire, mais en fait, et puis c'est passionnant quoi, de découvrir cette histoire-là.
Écoutez, merci beaucoup de votre accueil et puis nous vous souhaitons une très bonne continuation dans cette librairie particulièrement sympathique. Merci à vous.
Merci. Rappelons le rendez-vous des escales du livre qui se tiendra cette année les 5, 6 et 7 avril au quartier Sainte-Croix. Et vous y retrouverez bon nombre de libraires que vous avez entendus ici même.
Oui, par exemple la librairie Le Passeur, qui recevra jusqu'à 13 auteurs tout au long de ces 3 jours. Cette même librairie, Le Passeur, accueillera 7 fois dans sa librairie Avenue Thiers, le mercredi 18 avril à 18h30, Denis Michelis pour son dernier roman « Amour fou ».
La chronique art de Sarah Vélu.
Corinne Rosotte est photographe. Après un diplôme en sociologie, elle intègre l'École nationale supérieure de la photographie de Arles. C'est ainsi que son travail allie préoccupations esthétiques et documentaires. Elle effectue plusieurs séries de photographies, dont une pour documenter le développement de la province de Gansu, en Chine. En 2016, elle publie Nos vies entières, un ouvrage mêlant photographie et texte, suggérant la question de l'identité avec la maladie d'Alzheimer. En 2021, à la Maison de la Région de Limoges, puis en 2022, à l'Hôtel de Région de Bordeaux, elle expose son travail « Mémoire d'enfance exilée, histoire des enfants dits de la Creuse ». Elle propose au public différents portraits et témoignages de quelques-uns de ses enfants exilés de force, ayant aujourd'hui entre 50 et 70 ans. Pour ce faire, l'artiste a travaillé pendant un an, voyageant à la rencontre de ceux qui pourraient éventuellement témoigner. Ils sont peu. Le rapport d'étude d'une commission parlementaire rendu au ministère des Affaires d'Outre-mer en 2018 indique que sur 1800 ex-mineurs réunionnais, encore vivants aujourd'hui, seules 150 personnes se sont manifestées et indiquent savoir qu'elles font partie d'une politique de migration forcée. Comment ces enfants arrachés à leur identité ont-ils pu se construire? Quels sont leurs liens avec la Réunion? Corinne Rosotte, à travers une série de diptyques, tente de rendre le récit de ceux qui doivent trouver le chemin de la résilience. Expression empruntée à Valérie Andanson, porte-parole de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. Chaque diptyque raconte une vie. Sur l'un d'eux, à gauche, le portrait d'une petite fille, en noir et blanc. Elle fixe l'objectif en souriant. À droite, une femme dans une robe à fleurs fixe elle aussi l'objectif. Son sourire a disparu. Elle se tient au milieu des lumières d'un dancing où elle pratique la danse de salon, une passion qui la porte. Cette femme, c'est Marie-Jeanne Boyer. Elle vivait chez sa grand-mère et son oncle avant d'être enlevée avec sa sœur à l'âge de 9 ans. Adoptée par un couple de personnes âgées, elles serviront de domestiques, seront victimes de divers abus de la part de leur tuteur. Sa sœur se suicidera à l'âge de 48 ans. Marie-Jeanne résume. On était des pions, de la marchandise, du bétail. Parmi les témoignages, celui de Marie-Josée Virapin, photographiée le regard dans le vide, le visage dur. À gauche, la photo d'une fenêtre. Les rideaux représentent en transparence des oiseaux qui semblent voler au-dessus des immeubles dans le ciel gris. Ses parents sont en vie, lorsqu'elle est envoyée à 11 ans au foyer de Saint-Clar, dans le Gers, où elle passera les 20 prochaines années. D'abord comme pensionnaire, puis comme éducatrice. Marie-Josée a retrouvé ses parents à La Réunion. Elle n'est pas guérie pour autant, elle confie. « Ce qui te détruit, c'est de savoir que tu as encore des parents, mais qu'ils ne te connaissent pas et que tu ne les connais pas. Toute ta vie, tu cherches à savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais on n'arrive pas à avoir un échange. » Les retrouvailles sont rares et ne sont pas évidentes. Anne David pose aux côtés de sa mère adoptive. À côté d'elle, la photo de l'église du village du Finistère, dans lequel elle passe une enfance heureuse avec ses parents adoptifs, avant de découvrir à 48 ans qu'elle fait partie des enfants de la Creuse. Après que la DAS lui ait délivré son dossier d'adoption, elle apprend que sa mère est décédée un an plus tôt, mais qu'elle a 8 frères et sœurs. 2 d'entre eux seulement accepteront de la rencontrer. Le portrait de Jean-Philippe Jean-Marie est placé contre la photographie du foyer de l'enfance, à Guéret, où il passera 10 ans entre ses 11 et 21 ans. On l'y empêche de parler créole. Il retrouvera sa mère 20 ans plus tard. Lorsqu'il la voit, il ne la reconnaît pas immédiatement. Il explique... Quand on essaye de renouer les liens familiaux, c'est impossible, car il y a une cassure. François Hollande a assisté au vernissage de l'exposition à Limoges en 2021. Face aux témoins qui ont pu se déplacer, il dira « La République vous a abandonné, il faut poursuivre l'État pour qu'il répare, pas forcément financièrement, mais surtout humainement. » Ce qui semble difficile au regard des témoignages dont nous venons de parler. Aujourd'hui, Corinne Rosotte travaille sur les portraits de jeunes travailleurs réfugiés dans la région de la Creuse. Vous pouvez retrouver son travail sur le site corinnerosotte.net.
Ainsi se termine l'émission de ce jour. Merci à nos chroniqueurs Sarah et Paul et merci à Gérard, indispensable à l'existence de l'émission. Gérard, que vous retrouverez d'ailleurs mercredi 3 avril. Alors, de quoi sera-t-il question dans cette émission de la semaine prochaine ?
Alors, la semaine prochaine, on va donner carte blanche sur une partie de l'émission à des étudiants en anthropologie. Et il sera également question, beaucoup question, dans l'émission de l'agenda des événements qui seront nombreux. Et c'est bien normal, ce sont des événements à l'occasion des 30 ans, de l'anniversaire des 30 ans du génocide des Tutsis du Rwanda. Moi, je voudrais rajouter que mercredi 3 avril, la semaine prochaine, eh bien, nous ne serons plus dans la trêve hivernale. Et on pense ici à tous ceux qu'on va sortir des loyers, qu'on va sortir des hébergements d'urgence. Et en ce moment, à l'heure où on vous parle, eh bien, il y a un rassemblement à l'appel de Médecins du Monde pour dénoncer cette brutalité institutionnelle, habituelle, annuelle, qui va mettre des enfants, qui va mettre des personnes âgées, des malades, des handicapés, à la rue. Contre ça aussi, il faut réagir.
La veille, mardi 2 avril, vous pourrez entendre à 11h Jean-Pierre Lefebvre pour son émission Histoire de voir, Histoire au pluriel.
Et c'est le mercredi 23 avril que nous vous proposerons une nouvelle émission d'un moment de littérature émancipatrice.
D'ici là, nous vous souhaitons d'excellents moments, riches en lecture, bien sûr.